C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour à tous, nous sommes à Marrakech à l'occasion de la 8e édition du sommet AfriCité. C'est la rencontre panafricaine phare de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, une organisation qui fête ses 20 ans. 5000 personnes, dont 750 maires, sont venues de tout le continent pour échanger sur les solutions que peuvent mettre en place les villes africaines pour s'engager dans un développement durable, faire face aux pollutions, s'adapter aux conséquences des changements climatiques, développer des infrastructures d'accès à l'énergie, à l'eau potable, de transport aussi, qui bénéficie au plus grand nombre. Un sujet essentiel à l'heure où 45% de la population africaine habite dans les villes, des villes qui accueillent jusqu'à plusieurs centaines de milliers de nouveaux habitants par an. Plus de 100 conférences thématiques ont lieu ici, dans les tentes installées sur la place Badjadid de Marrakech. Il n'en fallait pas plus pour que nous venions installer notre studio ici.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jean-Pierre Elongbassi.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, CGLU Afrique, hein, comme on dit dans le jargon ici. C'est donc vous le grand organisateur de cet événement. Quel est l'objectif d'Africité ?
L'objectif d'Africité, c'est de mettre en scène les collectivités territoriales comme acteurs clés du changement sur notre continent. Pendant très longtemps, la puissance publique avait une seule face, la face nationale. Depuis la mise en œuvre des lois de décentralisation, la puissance publique a deux faces, une face nationale et une face locale. Sauf que cette deuxième face avait du mal à s'imposer dans l'environnement institutionnel du continent. C'est pour ça que les maires et élus locaux et régionaux d'Afrique ont proposé que soit mis en place un événement phare qui marque leur entrée sur la scène institutionnelle du continent. C'est comme ça qu'on a imaginé en 1998 le lancement des sommets Africité et nous en sommes à la 8e édition. Et lorsque nous disions à l'époque que c'est la plus importante rencontre démocratique sur le continent, les gens riaient. Maintenant, on ne rit plus. On se rend compte que les collectivités territoriales veulent vraiment prendre leur place. Et je crains que la prochaine édition AfriCité soit encore plus fréquentée.
Alors qu'est-ce que ça dit ça ? Ça veut dire que justement les villes prennent de plus en plus de place sur le continent ?
Ça veut dire une chose simple. Le développement est local ou n'est pas. La démocratie est locale ou n'est pas. C'est au plus près de là où se posent les problèmes qu'on doit trouver des solutions. Et lorsque on nous dit penser global et agir local, c'est tout faux. On ne peut saisir la globalité qu'à partir de sa localité.
Et alors là, il y a donc plusieurs dizaines, même une centaine, je crois, de conférences autour d'un thème qui a été choisi. 164, soyons précis. Autour d'un thème qui a été choisi, c'est la transition vers des villes et des territoires durables. Donc l'idée, là, c'est de parler de durabilité, d'adaptation au changement climatique, d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de meilleures conditions de vie pour les habitants de toutes ces villes.
La transition vers des villes et territoires durables, ce n'est pas une option. On ne peut pas ne pas transiter, en Afrique en tout cas, vers des territoires, une voie de développement durable. Simplement parce que la voie de développement choisie par les pays développés et les pays émergents mène tout le monde dans l'impasse. Tout le monde le sait. J'ai suivi l'ancien ministre de l'Environnement de France qui nous disait que le tic-tac a commencé le 30 août dernier. Chaque jour, on consomme un peu plus de nos capacités de régénération de la nature. Nous sommes devenus totalement irresponsables par rapport à l'humanité. Nous ne valons que ce que nous laissons à nos enfants. Or, nous dépensons allègrement, sans compter, et en ignorant totalement que nous condamnons nos enfants. Donc l'Afrique, qui est la dernière à entrer dans la phase d'industrialisation, doit faire le choix de ne pas répéter ce que les pays développés et les pays émergents ont suivi comme chemin, qui est un chemin qui nous mène vers l'impasse. Dans moins de 50 ans, l'Afrique sera la partie la plus peuplée du monde. Si aujourd'hui, les Africains ne prennent pas conscience de cela et ne prennent pas leurs responsabilités par rapport à cela, le monde est mal.
Alors, à vos côtés, Ndionga Sakho, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller municipal de la ville de Dakar et président de la commission du développement durable de cette ville. Dakar fait partie donc des villes africaines qui doivent relever les nombreux défis dont Jean-Pierre Elongbassi vient de parler, et notamment le fait d'accueillir de plus en plus d'habitants chaque année.
Oui, tout à fait. Comme vous le savez, nous sommes confrontés à toutes sortes de vulnérabilités. Et la pression démographique est telle qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'urbanisation n'étant plus contrôlée, ça va dans tous les sens. Et c'est une urbanisation donc incontrôlée, un habitat spontané, précaire, des fonctionnalités urbaines qui manquent, des services essentiels qui sont défectueux. Donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Que faire, surtout aujourd'hui, quand vous constatez l'occupation du littoral, les zones non édificandies? Nous devons trouver des solutions et la ville de Dakar a entrepris depuis déjà plusieurs années un plan de gestion et d'occupation de l'espace. La ville de Dakar a mis en place un programme pour l'habitat.
Alors on va revenir sur les solutions, mais restons un petit peu sur le constat. Vous disiez 0,3% du territoire, mais 80% de l'activité économique du pays. Et ça, c'est quand même une situation à laquelle sont confrontées beaucoup de villes africaines, et notamment les capitales.
Absolument. Vous avez 80% des activités économiques, donc les activités industrielles, commerciales. Vous avez le port de Dakar. Tout l'espace est occupé par des activités économiques, commerciales, industrielles. Et nous devons voir comment réinventer la ville à travers une occupation de l'espace plus viable et plus résiliente.
Alors un espace en plus qui est très vulnérable, parce que je vais le rappeler, Dakar est une presqu'île.
Absolument.
Une presqu'île qui se fait grignoter par l'érosion côtière.
Tout à fait. Et l'érosion côtière, mais aussi les pollutions. Vous avez un système très vétuste du parc automobile. Les infrastructures ne sont pas adaptées, les routes. Donc, il faudra voir comment revoir l'aménagement du territoire et comment aussi essayer de mettre toutes les fonctionnalités pour pouvoir permettre au territoire d'être viable et économiquement aussi efficace et résilient aussi par rapport au changement climatique.
Alors vous avez plein d'actions bien concrètes en cours, nous en parlerons dans un instant, mais tout d'abord je voudrais donner la parole à Philippe Heinrichs, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Vous pouvez nous présenter ce club en quelques mots?
Ces clubs, c'est un groupe des pays membres de l'OCDE ainsi que la CDAO, l'UMOA et les SILS qui travaillent ensemble pour des meilleures politiques régionales en Afrique de l'Ouest.
Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous puisque vous lancez une plateforme qui s'appelle Africapolis, qui est la seule base de données géospatiale complète et homogène sur les villes et les dynamiques d'urbanisation en Afrique. C'est un outil très pédagogique où on peut visualiser justement l'incroyable dynamisme des villes africaines dont nous parlions. Une première question, pourquoi est-ce que c'est l'OCDE qui fait cela et pas l'Union africaine?
Au Club du Sahel et l'Afrique de l'Ouest, on a travaillé depuis plusieurs décennies, je peux dire, sur le besoin d'intégrer les dynamiques de l'urbanisation dans la conception des politiques de développement. Et depuis là, on travaille sur ce dossier et on essaye de mieux en mieux analyser et décrire ces phénomènes, et on se rend compte qu'il y a très peu de données fiable et complète qui existe. Et comme il n'y avait personne d'autre qui l'a fait, nous on se mis à la tâche et on a produit avec une équipe qui est Géopolis cette base de données.
Et donc cette base de données, expliquez-nous en quelques mots en quoi elle consiste.
Premièrement, tous les pays définissent les villes selon leurs objectifs et besoins, c'est-à-dire il n'y a pas une définition homogène de la ville. Cette base de données, ce qu'elle fait, elle utilise une seule définition, c'est la continuité d'une bâtie urbaine. Et elle est considérée en tant qu'urbain dès qu'elle a plus de 10 000 habitants. Après, avec une détection par satellite, on localise toutes les zones bâties sur le continent. On coupe cette information avec le recensement et on arrive à identifier 7 500 agglomérations de plus de 10 000 habitants sur le continent africain. Alors, c'est énorme. Comme comparaison, les World Urbanization Prospects de l'ONU, ils couvrent les villes au-dessus de 300 000 habitants, c'est que 220 agglomérations. Et ça, c'est un peu partout. Il y a très peu de grandes villes, mais il y a beaucoup, beaucoup de petites villes. Et souvent, cet aspect, il manque, en fait, dans les bases de données, dans les analyses.
C'est un aspect important parce qu'en fait, ces villes petites ou de taille moyenne ont tendance, elles aussi, à grossir. Il n'y a pas que les capitales. Et on se rend compte, grâce à la géospatialisation que vous avez faite, que certaines villes, du coup, distantes de 10-20 km, n'en forment plus qu'une avec l'étalement urbain. Et c'est ça, finalement, l'évolution urbaine de l'Afrique.
C'est ça, c'est ça. On a souvent la perception que les villes, ça grossit en nombre, mais on ne voit pas les conséquences sur le terrain. Après, oui, les grandes villes ou les grandes zones urbaines, comme autour de Dakar, comme autour de Cotonou, ça s'est densifié énormément et ça va former des grosses zones urbaines dans l'avenir. Mais on voit aussi plus dans les villes intermédiaires et petites qu'il y a aussi des dynamiques sur le terrain qui font qu'il y a... C'est plus complexe, en fait. Il faut comprendre qu'est-ce que se passe sur le terrain pour avoir des meilleures politiques. Parce qu'il y a, évidemment, comme les précédents intervenants ont dit, il y a beaucoup de défis, mais il y a un besoin de voir aussi comment ça se passe pour s'attaquer à ces défis.
Et du coup, on apprend sur votre base qu'il y a, parmi les 5 plus grandes agglomérations d'Afrique, 400 bien connues, hein, Le Caire, Lagos, Johannesburg et Kinshasa. Et la troisième zone urbaine du continent, c'est Onitsha, au Nigeria. Et là, c'est beaucoup moins connu. C'est une grande zone urbaine de 8,5 millions d'habitants, justement, qui émerge de cette fusion de nombreuses moyennes et petites villes qui se sont agglomérées.
Alors l'exemple de Onitsha montre deux choses. Premièrement, ça montre que les dynamiques sont extrêmement rapides. C'est-à-dire il y a 10 ans, 15 ans, Onitsha n'aurait pas figuré dans ce ranking de 5 plus grandes agglomérations de l'Afrique. Et la deuxième fait que ça montre, c'est l'importance de la définition. C'est-à-dire Onitsha, ça grossit, ça merge dans une zone qui est très densément peuplée. Alors il y a d'autres villes et villages, mais il y a aussi une densité rurale très forte. Et ces facteurs ensemble font qu'il y a une fusion du bâti urbain qui fait naître une grande zone urbaine de 3000 km².
Jean-Pierre Elongbassi, ça c'est une dimension qu'on ne connaît pas toujours quand on parle des villes africaines.
Mais qui ne les connaît pas ? Puisque les Africains vivent ces villes-là. Ce sont les statisticiens peut-être qui ne connaissent pas, ou les gens qui sont à New York, à l'ONU. Mais ceux qui vivent sur le terrain savent très bien. L'urbanisation africaine se distribue presque à égalité entre les grandes villes, les villes moyennes et les petites villes. Il faut se rendre compte qu'il y a une diversité de situations urbaines qui appelle une meilleure compréhension des dynamiques urbaines. Ce qui manque maintenant, et c'est ce que comble Africapolis, c'est la capacité à suivre cette dynamique urbaine. Et Africapolis apporte un outil extraordinaire pour suivre comment les dynamiques se font.
Oui, parce que ces dynamiques, comme leur nom l'indique, sont extrêmement vives. C'est-à-dire, aucun continent n'a connu une urbanisation aussi rapide.
C'est très simple. Je donne des chiffres qui sont très simples. Paris, pour passer de 500 000 habitants à 1 million d'habitants, un siècle. Lagos, pour passer de 500 000 habitants à 1 million d'habitants, 25 ans. Et Lagos, c'est 500 000 habitants supplémentaires par an. Voilà. Donc ça donne ce que cela veut dire que la dynamique d'urbanisation en Afrique, inédite dans l'histoire, qui est liée en fait au fait que la dynamique démographique de l'Afrique est elle-même foisonnante. On est encore en phase de transition démographique où l'équilibre de la mort n'est pas encore remplacé par l'équilibre de la vie. On fait beaucoup d'enfants parce que beaucoup risquent de mourir avant 5 ans. Grâce au progrès de la médecine, grâce au développement, grâce à l'éducation des femmes, on fait beaucoup moins d'enfants. Mais on calcule que l'asymptote, le moment où on va commencer à voir la population ou cette mentalité-là s'installer, que finalement beaucoup d'enfants vont survivre, on place l'asymptote aux environs des années 2060. Donc avant 2060, on sera dans le clash de beaucoup d'enfants qui naissent et beaucoup vont survivre. Et un pays comme le Niger, les femmes, c'est 8 enfants par femme. Et comme je disais tout à l'heure, ce sont les femmes qui sont la clé de ça.
femmes qui sont totalement absentes de notre plateau, malheureusement. C'est pas faute d'avoir voulu en inviter, mais ça a été très compliqué. Pourtant, il y en a plein ici à Africité.
Africité, c'est ce sommet est le sommet des femmes.
Mais où sont-elles?
Mais elles sont pleines.
Ah, alors là, on a entendu un bruit. En fait, faut le savoir, on a tous extrêmement froid dans cette tente à Marrakech. Et tout d'un coup, le chauffage s'est mis en place. Alors, ça fait un petit peu de bruit. Mais je demande à François Porcheron, réalisateur de l'émission, si on peut continuer quand même l'enregistrement. Il me fait signe que oui. Donc, avec ses doigts de fée, il diminuera ce son un petit peu puissant du chauffage. Jean-Pierre Elombassy, nous parlions du rôle des femmes qui est essentiel.
Il y a deux acteurs clés qui vont changer ce continent. Ce sont les femmes et les jeunes. Ces deux acteurs clés, ils sont présents à Africité de manière massive. Nous avons un réseau de femmes élues locales, le REFELA, qui a investi la scène locale et qui réclame que, par exemple, dans la gouvernance des collectivités locales, il y ait systématiquement l'inclusion des femmes. Ce réseau vient de lancer une initiative unique au monde, qui est la campagne des villes africaines sans enfants de la rue. Donc, elles sont ici pour affirmer que sans elles, rien ne peut bouger sur ce continent. Et je crois que sans elles, rien ne peut bouger sur ce continent. Et l'autre acteur clé du changement, c'est les jeunes. Et vous avez autour de la table des gens qui représentent ces jeunes-là. Je préfère que eux prennent la parole.
Vous écoutez C'est pas divan sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées.
Et cette semaine, il sous à Marrakech.
Écrivez-nous à c'estpasduvan@rfi.fr.
Super. Moi, j'adore à Marrakech. C'est bon.
Your phone and your wallet when you hit Lagos. City of chaos, poverty plague us, crying at the governor. Look at what you made us, only God can save us from the eternal wrath. We're living on the edge, but we managed to laugh. Hot weather got you sweating like you in a sauna bath. 1 week is long enough to kill your dreams fast. Low-cost tenement is for the upper class. Walk the wrong road at night, and they gon' rob your ass. Touts run the bus stop, beat up conductors. We're living in some beat-down structures. Cyber cafes get raided all the time by the police. Looking for the 419, and it's the innocent they catch them. Charged for the crime, cross the road near a footbridge, and pay the fine. We got dummies in uniforms and action toys. Police, plasma, area boys, specialize in making noise, flaming up the people's lands. Beggars on the street got changed for a grand, while the middle class people living mouth to hand.
24/7, my people on the ground.
Get they tenants thrown out. 5 in the morning, got them zoned out. VI used to be the land of the rich. Now it's VGC, dog ain't that a bootleg CDs, mark every corner. Pure water, the kids selling gala. Taxis are for the rich, so we climb Okada. But when it's really bad, we take the bus. Last resort, Moluwe, but I'd rather not. If you wanna smoke herb, my man, you know the spot in the shrine. And you can roll up a fat one, it's like that, son. Tell the OC to shove it. Watch Afrobeat laugh, and you gon' love it. Prostitutes hustle from weekend to weekend. So your joints open till late in the evening. We slang speaking. Out with my homeboys at Surulere National Stadium, OJ's Bar, where you can find all the home video stars. Lagos, Nigeria, that's where we are.
24/7, my people on the ground.
Lagos, never mind.
They know the legend, Lagos, stay the
night.
Slack a little bit, and you end up far behind.
Lagos,
Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos, Lagos
24/7, my people on the grind. And know the legend, Lagos state of mind. Slack a little bit, and get left far behind. Far, far behind, the Lagos state of mind.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes à Marrakech à l'occasion de la 8e édition du sommet Africité qui rassemble 5000 élus responsables économiques, chercheurs, représentants d'ONG venus de tout le continent et de bien plus loin. Nous le disions juste avant la pause musicale, les jeunes sont extrêmement importants ici à Africité. Bonjour Magadbo.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de l'Afrique C'est Chic World que je vous laisse nous présenter.
Alors l'Afrique C'est Chic World, merci pour votre invitation. L'Afrique C'est Chic World, c'est une plateforme d'innovation économique, sociale et culturelle. Et comme vous l'avez dit, quand on laisse la parole aux jeunes, on découvre qu'ils sont dynamiques. Comme le disait Monsieur Mbassi, cette dynamique démographique, elle s'exprime par des idées. Et l'objectif de l'Afrique C'est Chic, c'est d'accompagner Africity dans la création d'un Creative Lab, dont l'objectif est de donner la parole aux jeunes pour concevoir les villes africaines sur trois horizons. 2020, donc aujourd'hui, 2030, qui est l'objectif de développement durable des Nations Unies, et 2063, qui est l'agenda de l'Union africaine. Et 20 jeunes sont venus de 15 pays pour présenter leurs projets qui seront primés lors de la cérémonie de gala le 24 novembre lors d'Africité.
Alors parmi ces 20 lauréats, il y a vous, Aziz El Yaghoubi, bonjour.
Bah, bonjour.
Avec votre innovation Axel City, vous avez été sélectionné, vous faites partie des 20 lauréats. Alors expliquez-nous en quoi consiste votre innovation.
D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie les organisateurs et BES et Africité pour nous avoir donné l'occasion d'être parmi les jeunes Africains dont je représente le Maroc par Axel City. Comme vous savez, le Maroc espère de devenir une référence dans le Smart City. D'abord, en fait, avant de vous expliquer la réflexion, prenons l'exemple de Casablanca. Comme la moitié de la population marocaine vit en ville, et 70%, ça va être en 2050. Casablanca possède 5 millions d'habitants. C'est là exactement qu'on a eu la réflexion de créer une start-up qui s'appelle Axel City, spécialisée dans deux secteurs. Là où il y a le trafic, les parkings et le transport. L'innovation là, c'est une appli mobile qui permet de chercher, réserver, trouver, payer en ligne une place dans les parkings de la ville pour qu'on puisse faciliter l'usage de citoyens. Et d'autre part, pour qu'on puisse connecter tous les opérateurs en termes de transport, de parking et ainsi d'autres opérateurs pour qu'on puisse digitaliser et connecter le service quotidien de citoyens.
Alors, c'était important pour vous en tant que jeune, d'innover pour la ville, ça vous semble être l'espace où les jeunes doivent innover aujourd'hui sur le continent ?
Bien sûr, c'est très important pour nous, pour qu'on puisse participer parmi et de créer le concept de public-privé, pour qu'on puisse innover pour la ville.
Magadbo, il y a beaucoup d'innovations, hein, vous le disiez. Bon, vous avez sélectionné une vingtaine de lauréats. Quelles sont les autres innovations, par exemple ?
Alors, comme vous l'avez dit, les innovations concernent à la fois les zones urbaines et les zones rurales. Je vais en citer trois. Il y a un jeune qui a créé une innovation qui s'appelle Mbalit. C'est une poubelle intelligente. C'est une poubelle qui utilise deux technologies, la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que vous pouvez parler dans votre langue locale à la poubelle. L'intelligence artificielle traduit et ça vous permet de recycler. Donc c'est pour vous dire que les innovations concernent aussi le monde rural.
Et vous parlez de quoi avec votre poubelle ?
Par exemple, vous savez que quand vous êtes en Europe, vous avez un code couleur pour pouvoir recycler. Et comme ce code couleur n'est pas installé en Afrique, la poubelle vous permet de recycler le plastique, de recycler le verre, etc. Et comme la barrière linguistique est quelque chose qui peut poser problème par rapport à l'usage des technologies, cette poubelle est en train de révolutionner un petit peu la pratique en matière de nouvelles technologies par rapport aux populations analphabètes, par exemple. Je citerai un autre exemple. On a un projet qui s'appelle Iridoro, qui est le docteur des plantes, qui s'adresse aux paysans. Donc c'est une encyclopédie qui est une application qui est effectivement traduite avec des systèmes également de reconnaissance vocale pour aider à détecter les maladies des plantes. Très jeune, avec une granothèque qui est une sorte d'encyclopédie de toutes les graines qui existent et qui sont utilisées pour les sols africains. Alors, le troisième projet, c'est un projet d'e-learning, comme on dit, d'éducation en ligne, qui permet à des populations, par exemple, qui sont en Centrafrique, dans des zones de conflit, de pouvoir suivre des cours avec des professeurs qui ne peuvent pas se déplacer pour aller diffuser ces cours. En réalité, Creative Lab nous donne la preuve vivante qu'il y a un certain nombre de problèmes que rencontrent les collectivités locales dont les solutions sont dans la tête des jeunes, comme le disait M. Mbassi. Et quand on donne à ces jeunes la capacité d'abord d'exprimer leurs projets, d'exprimer leurs idées, et qu'ils ont la possibilité de le présenter à des maires et des collectivités, on se rend compte que le début de la solution peut venir en fait des jeunes. C'est pour ça que nous encourageons ces initiatives à se multiplier partout dans le continent pour connecter la population des jeunes avec celle des élus locaux pour apporter et accompagner en fait les solutions des villes intelligentes et durables.
Jean-Pierre Elong-Bassi, c'est important d'innover parce qu'en fait, il faut créer un imaginaire urbain africain.
Est-ce que vous avez écouté Felwine Sarr hier ?
Économiste sénégalais, auteur d'Afrotopia.
Économiste sénégalais, artiste, écrivain, auteur d'Afrotopia. Que
nous avons tous lu autour de...
Voilà, Felwine Sarr nous a proposé des itinérances. Disant, avant qu'il y ait des villes européennes, il y avait des villes africaines. Et beaucoup d'Africains ignorent cela. Et il y avait une organisation spatiale qui reflète cette culture, dont des traces sont retrouvées dans plusieurs vestiges des villes africaines. Et il ne s'est pas contenté de nous dire, dans le passé, vous aviez des villes. Il a dit... Regardez comment ces villes se construisent aujourd'hui avec une personnalité propre et qui a tendance à être niée par des idées de type Dubaï, de type Paris sur Congo, de type Atlantic City à Lagos, qui ne reflètent pas l'âme et le vécu des villes africaines. Nous avons eu tendance à faire du copier-coller par rapport aux villes, étant d'ailleurs influencé en cela par le fait que
le chauffage s'est arrêté, c'est une bonne nouvelle.
La ville coloniale était le modèle de ville. Et le reste, c'était le village. Aujourd'hui, l'idée que les gens sont en train de caresser, c'est que cette invention de la ville africaine qui se fait au jour le jour, se fait aussi par les jeunes. Et ces jeunes installe une culture urbaine nouvelle qui influence le monde. Je vais donner un exemple. Les jeunes de bidonville de Nairobi, bidonville branchée à l'électricité, doivent aller payer leurs factures au centre-ville de Nairobi. Ils se déplacent dans ce centre-ville, arrivent au centre pour payer. Il y a une telle queue qu'ils sont obligés de revenir le lendemain pour payer. Quand ils reviennent, on leur dit oui, vous payez votre facture, mais vous payez aussi la réinstallation du branchement parce qu'on vous a coupé entre-temps. Et on vous a coupé parce que vous n'avez pas payé à temps. Ces jeunes ont imaginé de proposer que leur téléphone portable soit un compte en banque et de commencer à payer avec leur téléphone portable. C'est comme ça qu'a été inventé M-Pesa et le mobile money, à partir d'une réponse concrète que les jeunes ont trouvée. Et aujourd'hui, le mobile money est devenu un outil mondial. Mais personne ne sait plus d'où il est né. C'est ça la créativité des jeunes Africains.
Alors, Dionga Saro, je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la ville de Dakar. Vous faites partie des 13 villes africaines qui innovent aussi, puisque vous avez adopté un plan climat-énergie territorial. Expliquez-nous comment cela fonctionne, parce que au-delà des inventions dans le numérique, etc., il y a quand même toute la question du bâti, du transport, de l'énergie, de la gestion des déchets, qui sont des défis énormes pour les villes africaines.
La première solution que nous avons préconisée, c'est déjà de voir toutes les mesures correctrices qu'il fallait prendre par rapport à l'occupation du territoire avec des projets d'aménagement et de requalification urbaine des quartiers spontanés pour leur redonner toutes les fonctionnalités. Nous avons des actions de rénovation urbaine parce que vous l'avez constaté dans beaucoup de villes africaines, ne serait-ce que même les façades, les types de peintures, etc. Chacun il va selon ses goûts, selon ses possibilités. Alors qu'il y a
Dakar,
besoin d'harmoniser.
Oui, il y a besoin d'harmoniser, mais il y a aussi besoin d'avoir un bâti adapté au climat. Et alors, vous avez mis en place des bâtiments qui ont des nouveaux matériaux qui sont plus proches de la terre que du béton parce que c'est plus adapté. Les habitats en terre, ça peut être moderne.
J'y arrive. Donc, cette volonté d'harmonisation nous a poussé déjà à faire le point sur l'aménagement de l'espace. Il y a ensuite des solutions qui sont liées au développement durable, puisqu'on en parle. Et chacun sait que agir sur le développement durable et réussir donc cette transition vers la durabilité, c'est déjà agir sur les aspects économiques, sur les aspects écologiques et sur les aspects sociaux. Comment faire pour que les habitants puissent se retrouver dans cette dynamique en cours? Et Dakar a mis en évidence le bureau du dialogue citoyen pour une approche plus participative, plus inclusive, et pour pouvoir recenser aussi les attentes et les besoins des populations. Besoins en matière d'habitat, besoins en matière de services essentiels, mais besoins, des nouveaux besoins en termes de mobilité, de connectivité, etc. Alors, par rapport à toutes ces questions-là, nous avons déjà, avant le plan climat-énergie territorial, mis en place le pacte, le plan d'action et de gestion environnementale, qui nous a permis de travailler sur la gestion des déchets, qui a développé d'ailleurs une économie circulaire tout autour et qui a permis à beaucoup de jeunes de pouvoir se lancer dans des activités génératrices de revenus. Nous avons lancé le projet du micro-jardinage, qui était un système alimentaire en milieu urbain pour permettre à des couches vulnérables de pouvoir déjà améliorer leur système d'alimentation, mais aussi avoir des activités économiques qui leur permettent de pouvoir gagner des revenus. Nous avons aussi initié avec l'Union européenne, dans le cadre de la COMESA, le plan climat-énergie territorial, qui est une action de planification pour réfléchir sur des stratégies d'atténuation et d'adaptation par rapport à la lutte contre le changement climatique. Et il y a aussi des projets pilotes d'efficacité énergétique. Parmi ces projets-là, nous avons par exemple l'aménagement de salles bioclimatiques dans les hôpitaux qui sont du ressort de la ville de Dakar.
Alors qu'est-ce que c'est une salle bioclimatique?
Oui, en utilisant le Jatropha pour essayer d'aménager des salles, de les construire en fonction donc de ces produits-là, de ces matériaux locaux, le Jatropha qui permet de pouvoir conserver l'énergie, consommer moins d'énergie et aussi avoir des salles qui permettent d'avoir toutes les commodités en termes de confort thermique. Nous avons la rénovation thermique des bâtiments administratifs, à commencer par l'hôtel de ville de Dakar. Vous savez qu'à Dakar, aujourd'hui, dépense à peu près 800 000 euros par mois de consommation sur l'éclairage public. Donc, faire plus de place aux énergies renouvelables, au solaire, au LED, donc des choix technologiques qui permettent d'économiser. Sur les actions aussi de sensibilisation, nous avons mis en place dans toutes les communes de Dakar, les 19 communes de Dakar, des focus groups où nous discutons sur les comportements éco-citoyens, sur les éco-gestes, sur l'éducation à la culture environnementale en développant des éco-quartiers. Donc beaucoup d'activités, nous en avons peut-être même d'autres, hein, par exemple au niveau des actions de collecte des ordures ménagères, ça aussi c'est important, une incitation, une émulation au niveau des quartiers pour que les quartiers les plus propres soient primés et soient mis en évidence. Ça aussi, ça participe un peu de l'amélioration du cadre de vie.
Malheureusement, on ne va pas pouvoir tout lister dans cette émission parce que ça serait trop long. Mais en tout cas, on a bien entendu, à Dakar, on invente la ville africaine de demain.
45 degrés et pas le moindre buisson. Un enfant aux yeux sombres m'indique la direction. Ma japonaise peinte au carton, je mets les gaz pour le nord. Je suis là pour l'action et l'abandonne à son sort. Sur la route Dakar, des souvenirs à l'appel entre les semelles. On croise la nature humaine. Qu'est-ce que la vie d'un petit noir que le monde voyait à peine? Chaque jour je manque de justesse, un gamin.
atterrite de mes nombreux embardés, le moral en faillite. Je regrette la terre des nuits étoilées. Sur la route de Dakar, des souvenirs à l'appel entre les semaines. De la nature humaine, qu'est-ce que la vie d'un petit noir? Sur la route de Dakar, souvenir à l'appel entre les semelles des coureurs, dans le brouillard. Sur la route de Dakar, croise la nature humaine. Que le monde voyait ta peine, que le monde voyait ta peine, que le monde voyait ta peine, que le monde voyait ta peine. Yahouya Samahari, Kai, 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 Kai,
écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous sommes à Marrakech à l'occasion de la 8e édition du sommet Africité qui rassemble 5000 élus, responsables économiques, chercheurs, représentants d'ONG venus de tout le continent et de bien plus loin. Jean-Pierre Elombassi, on l'a entendu à travers cette émission, les villes africaines font face à des défis colossaux à une vitesse incroyable. Il y a de l'innovation, il y a de l'envie, mais pour tout cela, il faut des moyens. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est là où il faut que les villes se battent.
Les moyens font partie de notre problème, évidemment. Mais si vous voulez, moi j'aime bien regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Il y a dans les villes africaines une créativité, une production de richesse qui est souvent ignorée. Je vais vous donner une anecdote. On est parti à Saint-Louis du Sénégal. Saint-Louis du Sénégal, c'est une ville qui était capitale du Sénégal. Et cette ville-là, quand la capitale est partie de là, ils se sont sentis un peu abandonnés. Et l'ancien maire, il est malheureusement décédé aujourd'hui, le jour où on est arrivé chez lui en disant, écoutez, nous voulons regarder comment fonctionne l'économie de Saint-Louis. Il n'y a pas d'économie ici. Nous sommes tous morts. Il n'y a rien ici. On lui a dit, on va quand même regarder. On a découvert que Saint-Louis, c'était 100 milliards de valeur ajoutée supplémentaire par an. C'est-à-dire que la ville produisait chaque année 100 milliards de plus de valeur ajoutée. Le maire ne le savait pas. On a découvert que tous les œufs qui se mangent à Saint-Louis étaient acheminés de Dakar. C'est une grande surprise. Même les œufs, vous ne pouvez pas produire, vous êtes sûr? Bien. On a découvert que ceux qu'ils traitaient de très pauvres, les pêcheurs, étaient en réalité très riches. Et on a démontré que l'électroménager qu'il y avait dans les maisons des pêcheurs montrait bien que ce ne sont pas des gens aussi pauvres, ils ne voulaient rien payer du tout. Et on a installé une conversation entre la mairie et ses populations. Et cette conversation a abouti au fait que les pêcheurs ont dit, oui, bon, on a un peu plus d'argent, mais vous voulez nous prendre l'argent, pourquoi? Regardez notre débarcadère, il n'y a rien dessus, donc vous voulez qu'on vous donne l'argent, pourquoi? Une conversation a commencé sur le rôle de la mairie dans l'organisation de l'espace public et dans l'organisation des services aux populations et aux activités économiques. Je crois qu'il y a de la richesse dans les villes africaines. Je crois que il y a des manières d'aborder la ville africaine avec les yeux de la pauvreté qui est une manière inadéquate. Je ne dis pas qu'elles sont riches, mais je dis qu'elles sont, les villes sont plus pauvres que leurs habitants. Et c'est quelque chose qu'il faut complètement changer. Et pour cela, il faut déjà savoir qu'est-ce que produisent ces villes. C'est pour ça que nous, on a mis un peu, avec le Club du Sahel, justement, une méthode qui s'appelle la méthode écologue, qui consiste à calculer ce que produisent les villes. Parce que si on ne gère pas ce qu'on ne mesure pas. Donc, quelque part, il faut que les villes africaines cessent de uniquement tendre la main, mais de réaliser leur potentiel. Il n'y a pas de territoire sans potentiel. Et de faire en sorte que la collectivité publique ait plus de moyens pour agir. Et pour ça, il faut accepter. Et là, c'est une situation très difficile. Il faut accepter qu'on paye plus d'impôts. Et quand on fait ce discours-là, évidemment, les pays développés, on dit « Oh, jamais, il ne faut pas payer plus d'impôts. » Mais en réalité, beaucoup d'avantages à payer plus d'impôts. Le premier avantage, c'est qu'on donne plus de moyens à la collectivité publique d'agir. Le deuxième, c'est qu'on diminue la corruption. Parce que si vous me prenez un centime par rapport à ce que je gagne et que vous l'utilisez n'importe comment, je m'en fous. Mais si vous prenez la moitié de ce que je gagne, je ne vous permettrai jamais de l'utiliser n'importe comment. Le niveau d'impôt atteint dans les pays développés est tel que le discours sur la hausse d'impôts n'est plus acceptable. Or, le niveau d'imposition des pays où nous sommes est très faible et ne permet pas à la collectivité de jouer vraiment son rôle. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on ne fasse pas du télescopage historique. Vous êtes dans les pays développés à un niveau... La Suède, on vous prend la moitié de ce que vous gagnez. Et en Afrique, on prend très peu. Donc, il faut augmenter la capacité de mettre collectivement nos ressources ensemble pour avoir une capacité de créer l'espace public et des biens publics.
Donc, les ressources sont là. Il suffit finalement de bien les identifier. Bon, un peu d'impôts en plus, on a bien entendu. Et puis, beaucoup d'imaginaire, de créativité. Et c'est ce qu'on entend ici à Africité.
Ben, c'est ce que nous avons challengé les jeunes en leur disant « La ville de demain, c'est la vôtre. C'est vous qui devez inventer cette ville. C'est vous qui devez inventer la ville africaine de demain, pas du copier-coller. Et c'est vous qui devez inventer des réponses à la ville africaine de demain en utilisant la science, en utilisant les technologies, mais en utilisant votre propre culture. » Et je crois que ce message a été entendu. Les jeunes qui sont dans le laboratoire de créativité qui est en cours actuellement ici à Marrakech sont en train de nous montrer à quel point leur création, leur imaginaire, leur proposition peut révolutionner la manière dont on regarde la ville africaine aujourd'hui.
Maguenbo, vous confirmez ?
Je confirme parfaitement. Et quand les jeunes pensent leur ville, ils s'inspirent des valeurs locales. Cette poubelle qui parle à des personnes, à des populations analphabètes en est l'illustration. Et cette ville africaine, elle se conçoit aujourd'hui en effet avec les jeunes qui intègrent toutes les notions de leur écosystème culturel, social. Et quand elles mettent la science au service de leur innovation, ça donne des résultats incroyables. Le Creative Lab a commencé il y a 2 jours. Et on est impressionné au quotidien de cette capacité des jeunes à prendre la parole, à s'exprimer. Et ils vont le faire davantage encore dans les 2 jours qui viennent. Et je vous garantis que cette dynamique démographique, elle s'accompagne effectivement avec cette créativité insolente, infinie, presque inédite au niveau mondial, je dis.
Mais il faut rappeler quand même que la moyenne d'âge sur le continent africain, c'est 19 ans.
Exactement.
En Europe, c'est 42 ans.
Exactement, exactement. Et ces jeunes sont connectés. Ils sont connectés, ils sont au courant. Certains sont autodidactes aussi, rappelons-le. Et ce digital permet d'abattre les frontières et de donner accès à cette connaissance. Et ces jeunes s'en emparent et s'en servent bien pour innover et créer ces villes africaines à la fois sociales, à impact environnemental positif. Avec tout le savoir-faire qui est le leur. Aujourd'hui, nous le remarquons au quotidien. Quand ces jeunes prennent ces technologies et en font usage correctement, en tenant compte de leurs valeurs locales, il se produit des choses extraordinaires. Et l'appel qui a été fait ici à AfriCity, c'est de confronter ces idées aux problématiques des collectivités locales et territoriales.
Et donc on peut imaginer qu'ici, à AfriCité, il va y avoir énormément de connexions entre Absolument. Les jeunes, les élus. C'est le début d'une grande aventure, ce Absolument. Creative Lab.
Absolument. C'est en fait un trait d'union entre une société civile jeune et des élus locaux pour créer ensemble et imaginer ensemble des solutions aux problèmes que rencontrent les territoires au quotidien.
Et donc s'il y a des jeunes qui ont envie de se lancer sur ce domaine, ils peuvent aller s'inspirer en allant voir Africa Police, Philippe Herings. Il y a plein de données, c'est extrêmement pédagogique pour comprendre tous ces enjeux dont nous venons de parler sur les villes africaines. Ça y est, c'est en ligne ?
C'est en ligne, oui. Évidemment, et moi, tout le débat, ce que m'inspire, c'est le besoin d'informations ou de données. Là, l'Africa Police est sur les dynamiques d'urbanisation, mais là, on parle de la vitalité des villes africaines, en fait, des jeunes, des projets qui existent. Mais ça, on ne le voit pas dans les données. Et pour ça, on ne le connaît pas, et pour ça, on n'intègre pas dans notre vision de la ville africaine. Et si on n'a pas assez de données, il faut plus de convictions et des visions pour aller en avant quand même, en fait. Et j'espère qu'il y aura des opportunités de développer Africa Police avec des idées, avec des outils qui viennent notamment des jeunes africains pour nous aider à développer un outil plus complet sur les villes africaines.
Je sens qu'il va y avoir des conversations après cette émission. merci à tous d'avoir participé à cette émission. Jean-Pierre Elombassy, Africité referme ses portes demain. Grande richesse cette année. Vous attendez... Vous allez conclure par quelque chose, une déclaration ?
Vous savez, l'Africité, c'est un rendez-vous sur la gouvernance locale et son rôle dans la transformation du continent et du monde. Et tous les 3 ans, on fait le point. Est-ce qu'on a été un talk show ou est-ce qu'on a fait bouger les lignes un tout petit peu ? Nous comptons sur les jeunes et les femmes cette année pour que dans 3 ans, en 2021, on ait fait bouger les lignes. Nous sommes persuadés que cette conversation qui a commencé entre les jeunes et les élus va donner des résultats totalement inattendus. Et moi, j'ai confiance en ces jeunes parce que leur maîtrise de leur temps n'est pas reflétée dans la gouvernance de nos collectivités. C'est pour ça qu'une des choses que nous avons mises en avant, c'est de dire que bon, ces jeunes-là, donc, qu'on sollicite lors des élections, qu'on sollicite pour leur créativité, il faut aussi leur donner une place à l'intérieur des conseils municipaux et à l'intérieur des mairies. Et cette conversation, elle doit continuer. Et les jeunes doivent prendre leur place. Parce que c'est quand les dégoûtés quittent la table, ce sont les dégoûtants qui restent.
Merci Jean-Pierre Elombassy, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci au serveur qui nous a apporté du thé à la menthe durant toute cette émission, c'était bien agréable. Merci à François Porcheron pour la réalisation et l'installation de ce studio et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, toujours à Marrakech, même planète, même heure.